Vous écoutez, on lit pour vous.
Je ne définis pas mon bonheur par mon succès. Un texte de Nicolas Richard, paru le 13 mars 2026 dans la presse. Le patineur de vitesse Laurent Dubreuil rédige un journal personnel depuis 2011. Aujourd'hui, ses carnets d'athlètes font des milliers de pages. Si tu les mets bout à bout, ils sont ça de longs, dit-il en espaçant ses mains comme un pêcheur qui illustre la taille de sa prise. Dubreuil couche sur papier, à l'heure à laquelle il se couche, l'heure à laquelle il se lève, le poids, les entraînements, les fréquences cardiaques. Puis, en revenant dans sa chambre du village olympique, le 14 février au soir, il a écrit « Médaille olympique avec des points d'exclamation », raconte le gagnant du bronze à l'épreuve du 500 mètres lors d'un long entretien avec la presse. Ce matin-là, Dubreuil s'est déposé au café du Stade olympique pour manger un sandwich jambon-fromage. Le patineur de 33 ans faisait un passage éclair dans la métropole pour rencontrer les médias montréalais. En matinée, il avait déjà fait 3 entrevues. Après sa pause déjeuner, il lui en restait 5. « Je me sens relax », assure Dubreuil. Il traînait sa médaille remportée à Milan dans son sac à dos. Pourtant, il n'a jamais été écrasé par le poids de ladite médaille. À ses 3e Jeux, le natif de Lévis savait comment gérer les attentes. Il savait surtout comment négocier avec une éventuelle déception ou une possible réussite. Il y a 4 ans, les hauts et les bas ont été extrêmes. Il évoque notamment sa 4e place aux Jeux de Pékin, aux 500 mètres, son épreuve de prédilection et sa médaille d'argent surprise aux 1000 mètres. J'étais vidé, mais là, je n'ai pas vécu ça. À cause de l'expérience et parce que le high n'était pas aussi haut, puisque ce n'était pas ma première médaille olympique, explique-t-il. En 2022, il a passé 2 mois sans faire le moindre entraînement, complètement sédentaire. J'ai pris à peu près 12 livres. Et là, je suis revenu lundi soir et mardi, j'ai fait de la musculation parce que ça me tentait. Les priorités. Après les Jeux, Dubreuil s'est dirigé directement vers les Pays-Bas, où avaient lieu les championnats du monde. Le père de 2 enfants en bas âge n'avait pas vu sa famille depuis son départ pour l'Italie. Ses proches l'ont toutefois rejoint dans le pays de Max Verstappen. « On est allé les chercher à 10 heures du matin, et à 8 heures le soir, se souvient-il, après le souper, je ne leur avais même pas montré la médaille encore. Ils s'en sacraient bien raide. Ils n'en avaient rien à faire, ils s'en foutaient. » Pour Rose et Nathan, papa rentrait du travail, comme s'il revenait du bureau, mais avec une médaille olympique dans ses bagages. Ma fille l'a regardé 2 secondes et l'a dit « Cool !» avant de retourner dans le salon. Et Nathan l'a mise dans son cou et l'a joué avec sans savoir ce que c'était. Ma fille comprend, mais elle s'en sacre. Mon gars est impressionné, mais il ne comprend pas. C'est ce genre de retour à la réalité qui empêche Dubreuil d'avoir la grosse tête. Et c'est le même refrain chaque fois qu'il rentre d'une compétition. Le patineur sait que ses exploits sortent de l'ordinaire, mais le quotidien finit toujours par le rattraper. La médaille, ça ne change pas ta vie. Tu paies tes taxes municipales, t'es pogné dans le trafic, tu manges, tu vas à la toilette, tu vas reconduire tes enfants à l'école, tu te bats pour les inscrire au soccer. C'est 1% de ta vie qui change. Il fait donc une franche distinction dans la manière dont il définit le succès et le bonheur. Je définis le succès par les résultats, purs et durs. Cependant, je ne définis pas mon bonheur par mon succès. Et pour moi, c'est plus important d'être heureux que d'avoir du succès. Dubreuil pousse la réflexion encore plus loin. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas avoir du succès, mais je serai heureux dans la vie avec ou sans succès. Parce que ce qui me rend heureux, ce n'est pas mon succès, c'est ce que je fais au quotidien. Ce n'est pas si important que ça, avoir du succès. Je m'investis pour en avoir. Ma vie tourne autour du fait de gagner des médailles, mais ce n'est pas tout. Si tu me donnes le choix entre le succès et le bonheur, je prends le bonheur. Mais là, je veux les deux. Faire parler. Pendant les Jeux, Dubreuil a connu le succès souhaité. Il a également déployé sa plume pour écrire non seulement dans son carnet, mais aussi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Il y a raconté, en chronique, le quotidien d'un athlète aux Jeux olympiques. Et sa toute dernière chronique a fait couler beaucoup d'encre. Il a notamment critiqué le système de financement du sport canadien dans son texte « Pourquoi le Canada régresse aux Jeux olympiques ». Depuis les Jeux, on parle à Dubreuil davantage de cette sortie que de sa médaille. Je ne m'étais pas arrêté pour y penser. Peut-être un peu, reconnaît-il. Toutefois, il se doutait des réactions que son texte susciterait, jure Dubreuil. Je ne fais pas ça pour moi, je le fais pour les générations futures. Qu'ils augmentent le financement ou non, moi, ma carrière est faite, il me reste juste quelques années. Dubreuil dénonce non seulement le recul du financement, mais aussi une forme d'hypocrisie des institutions responsables du développement du sport amateur canadien. Comme pays, dit-il, si tu ne donnes pas les outils à tes athlètes pour rendre la population fière, tu ne peux pas vraiment dire que tu es fier de tes athlètes. Si tu dis que l'éducation de tes enfants est importante, mais que tu ne mets pas assez d'argent dans leur REEE, ça ne doit pas être vraiment important. À Milan-Cortina, la délégation canadienne visait une trentaine de médailles. Mais avec 21 médailles, le Canada était moins bon que prévu. Alors Dubreuil a jugé que c'était un bon moment pour en parler. Quand j'ai fait la chronique, je savais que ça allait faire parler. C'est authentique. Le but, ce n'est pas de faire parler pour faire parler, c'est que ça change quelque chose. Si tel est le cas, Dubreuil a reconnu une autre sorte de succès. C'était « Je ne définis pas mon bonheur par mon succès », un texte de Nicolas Richard, paru le 13 mars 2026 dans la presse.
Le Québécois Gilles Brassard remporte le prix Turing et fait un pied de nez à Trump. Un texte de Philippe Mercure, paru le 18 mars 2026 dans la presse. Quiconque l'a déjà rencontré peut en témoigner. Avec son mélange d'intelligence et d'excentricité, Gilles Brassard est un génie. Ses pairs viennent de le reconnaître en lui accordant la plus haute distinction mondiale en informatique, le prix Turing. Le chercheur québécois a inventé deux concepts semblant tout droit sortis de la science-fiction, la cryptographie quantique et la téléportation quantique. Ce prix Turing, le professeur d'informatique à l'Université de Montréal l'attendait depuis des décennies. Pourtant, dans une entrevue virtuelle qu'il m'a accordée avant l'annonce officielle, l'homme de 70 ans lance un pavé dans la mare. Il ne s'en rendra pas à San Francisco en juin pour recevoir son prix. Tant que le petit dictateur est au pouvoir, je ne vais aux États-Unis sous aucun prétexte, même pas pour ça, lance-t-il dans une allusion évidente à Donald Trump. Je vais être là sur Zoom, mais il est hors de question que je mette les pieds dans ce pays qui nous a déclaré la guerre. Gilles Brassard partage les honneurs avec le physicien américain Charles H. Bennett. Le prix, qui vient avec une bourse de 1 million de dollars américains, leur est remis pour leur rôle essentiel dans l'établissement des fondements de l'informatique quantique et la transformation des communications sécurisées et de l'informatique, a déclaré l'Association for Computing Machinery, ACM, qui le décerne. Détrompez-vous. Même s'il boudera la cérémonie officielle, Gilles Brassard se dit très, très, très heureux de l'honneur qui lui est fait. Je suis informaticien et ce prix est remis par mes pairs informaticiens. Pour moi, c'est le prix mondial qui a le plus de signification, dit-il. Le nom de Gilles Brassard circule depuis un moment pour le prix Nobel de physique. Sans fausse modestie, le chercheur québécois affirme qu'il mérite aussi ce prix et en parle même au futur plutôt qu'au conditionnel. « Quand j'aurai le Nobel, je ne serai pas mécontent, dit-il, mais le Turing a plus de valeur pour moi. » Gilles Brassard, qui est rentré à l'université à 13 ans, fait penser à un curieux mélange de hippie et de savant fou, et le rencontrer est toujours un événement marquant. Il y a un an, il m'avait reçu à l'Université de Montréal en sandales Birkenstock et m'avait montré son bureau. L'endroit est si encombré de papiers et de boîtes qu'il est complètement inutilisable, poussant le chercheur à travailler dans son laboratoire. Cette fois, je le vois apparaître dans mon écran d'ordinateur avec une joue sévèrement balafrée. « J'ai déboulé un escalier, explique-t-il. Mais pas par en bas, ce qui aurait été plus grave, je l'ai déboulé par en haut. » Si vous n'êtes pas trop sûr de comprendre, c'est normal. Le cerveau de Gilles Brassard jongle avec des concepts qui échappent au commun des mortels. Ses recherches le montrent bien. Le génie de Gilles Brassard et de Charles Bennett fut de comprendre que la physique quantique, cette science qui décrit le comportement des objets à l'échelle de l'atome, peut être utilisée pour transmettre de l'information. La rencontre des deux hommes est elle-même entourée d'une certaine légende. Brassard aime raconter que Bennett l'a abordé alors qu'il se baignait au large d'une plage de Porto Rico. Un complet étranger nage vers moi et me dit comme ça, sans raison apparente, qu'un de ses amis a trouvé comment utiliser la mécanique quantique pour fabriquer des billets de banque impossibles à contrefaire, raconte-t-il. Gilles Brassard finira par m'avouer que cette version de l'histoire est rigoureusement exacte, mais incomplète. La rencontre s'est produite lors d'une conférence internationale d'informatique. Et si Brassard ne connaissait pas Bennett, ce dernier avait entendu parler des intérêts de recherche du Québécois et pensait trouver en lui un interlocuteur enthousiaste. Il ne s'était pas trompé. Au début des années 1980, le physicien et l'informaticien combinent leurs expertises pour imaginer de nouvelles applications de la physique quantique. Après les billets de banque impossibles à contrefaire, qui se butent à certains obstacles pratiques, les deux hommes découvrent que les propriétés quantiques permettent de transmettre des messages secrets de façon fondamentalement inviolable, peu importe la technologie et la capacité de calcul que posséderait un éventuel espion. Dans son communiqué annonçant le prix Turing, l'Association for Computing Machinery décrit cette découverte comme un moment transformateur de l'histoire de l'informatique. Charles H. Bennett et Gilles Brassard ont fondamentalement changé notre compréhension de l'information elle-même, dit le président de l'ACM, Yanis Loanidis. Leurs idées ont repoussé les limites de l'informatique et ont donné lieu à des décennies de découvertes dans toutes les disciplines. À l'époque, pourtant, Gilles Brassard n'a pas nécessairement l'impression d'avoir lancé une révolution. On ne prenait pas ça au sérieux plus qu'il faut, dit-il. C'était surtout un amusement. D'une part, le concept est alors purement théorique. D'autre part, il est loin d'être clair qu'il est utile. Les algorithmes de cryptographie conventionnels semblent à l'époque largement suffisants pour assurer la sécurité des communications sur l'Internet. Pour montrer que leur idée n'est pas qu'un délire de théoricien, Brassard et Bennett mobilisent trois de leurs étudiants et réalisent une expérience qui montre la transmission d'un message par cryptographie quantique sur une modeste distance de 32 cm. On était cinq théoriciens purs et durs. C'est un miracle qu'on n'ait pas mis le feu à la baraque, raconte Gilles Brassard. Quelques années plus tard, le mathématicien américain Peter Shor découvre que de futurs ordinateurs quantiques ne feraient qu'une bouchée des algorithmes de cryptographie classique. L'arrivée de ces superordinateurs compromettrait la sécurité de toutes les informations échangées sur l'Internet. Cette démonstration relance l'intérêt pour la cryptographie quantique, d'autant plus que le développement de l'ordinateur quantique progresse rapidement. Aujourd'hui, la Chine possède un réseau de cryptographie quantique qui s'étend sur des milliers de kilomètres, et l'Union européenne travaille à son propre réseau. Entre-temps, Gilles Brassard invente en 1992 un autre concept qui frappe l'imaginaire, la téléportation quantique, de concert avec le Québécois Claude Crépeau. Fait assez incroyable, Gilles Brassard est le deuxième professeur de l'Université de Montréal à obtenir le Turing après le spécialiste de l'intelligence artificielle Joshua Bengio en 2018. Les chercheurs de calibre mondial comme lui sont des trésors pour le Québec. Il faut célébrer leur victoire et donner tous les moyens aux plus jeunes qui les regardent de pouvoir suivre leurs traces. C'était « Le Québécois Gilles Brassard remporte le prix Turing et fait un pied de nez à Trump ». Un texte de Philippe Mercure, paru le 18 mars 2026 dans la presse.
Emploi au Canada, du progrès pour les nouveaux arrivants. Un texte de Jonathan Sema, paru le 7 avril 2026 dans La Liberté. L'intégration des nouveaux arrivants entre 2019 et 2024 montre des signes de progrès structurels. Réduction des délais d'embauche, meilleure reconnaissance de l'expérience internationale et meilleure adéquation emploi-formation. De manière générale, les résultats indiquent que les immigrants récents en âge de travailler qui sont arrivés au Canada au cours des 5 années précédentes ont connu une situation plus favorable que les cohortes précédentes en ce qui concerne leur intégration initiale au marché du travail, dit Statistique Canada. En effet, plus de 4 immigrants récents sur 10, 42,5%, et près de la moitié des résidents non permanents, RNP, 48,5%, ayant cherché du travail, ont trouvé leur premier emploi en moins de 3 mois, indique Statistique Canada. Cette proportion est d'ailleurs nettement supérieure à celle des immigrants arrivés il y a 10 à 15 ans, dont seulement 31,3% avaient trouvé un emploi dans ce délai. Les immigrants récents sont plus susceptibles de voir leur expérience de travail acquise à l'étranger prise en compte par leur premier employeur pour déterminer leur salaire et leurs conditions, 69,4% contre 50,1% pour ceux arrivés 5 à 10 ans plus tôt. Ils sont également plus susceptibles que les cohortes précédentes d'avoir occupé un emploi rémunéré entièrement lié à leur diplôme obtenu à l'étranger. Cependant, le statut de résident non permanent semble associé à une précarité salariale plus forte, et les barrières liées à l'expérience canadienne et à l'accréditation des professions réglementées freinent encore le plein déploiement du capital humain des immigrants. Les chiffres montrent, par exemple, que moins de la moitié, 42,7% des immigrants ayant tenté d'exercer une profession réglementée ont obtenu la pleine reconnaissance de leur titre et de leur expérience acquis hors du Canada. Environ 3 immigrants récents et RNP sur 10 ont déclaré avoir éprouvé des difficultés lors de leur recherche d'un premier emploi. Le manque d'expérience ou de référence au Canada demeure l'obstacle le plus courant, 42,2%, suivi par l'absence de contact sur le marché du travail, 38,3%, les barrières linguistiques, 32,2%, et la non-acceptation des qualifications étrangères, 31,9%. Si l'on s'intéresse aux indicateurs économiques, un fossé salarial important persiste. Les RNP gagnent en moyenne 33,4% de moins que les personnes nées au Canada, tandis que pour les immigrants récents, l'écart est de 23,7%. Bien que la situation des immigrants récents se soit améliorée de façon notable après la pandémie, leur taux d'emploi, 75,5%, reste inférieur à celui des personnes nées au Canada, 85,4%, au troisième trimestre de 2024. Il reste à voir si les améliorations dans l'intégration initiale des nouveaux immigrants indiquent le début d'un changement durable dans les parcours d'intégration au marché du travail, un changement à long terme des caractéristiques des immigrants, telles qu'une augmentation de la proportion des immigrants qui acquièrent une expérience canadienne en tant que RNP avant de devenir des résidents permanents, ou sont largement le résultat de conditions plus favorables sur le marché du travail durant la reprise après la COVID-19, résume Statistique Canada en conclusion. C'était « Emploi au Canada, du progrès pour les nouveaux arrivants », un texte de Jonathan Sema paru le 7 avril 2026 dans « La Liberté ».
Les escaliers de Québec à la croisée des chemins. Un texte de Dave Noël, paru le 19 mars 2026 dans Le Devoir. La ville de Québec a entrepris la réfection d'une partie des escaliers faisant le pont entre la basse et la haute ville. Ce chantier atypique soulève la question de la mise en valeur de ces liens verticaux iconiques de la capitale entre fonctionnalité, patrimoine et art. La diffusion par 2 citoyens d'une vidéo dénonçant la détérioration avancée de l'escalier du Faubourg a fait grand bruit en début d'année. Les habitués de ces 99 marches avaient déjà remarqué la rouille grugeant les piliers de la structure métallique qui relie, depuis 1889, les quartiers Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste. Cet escalier monumental est l'un des 5 liens qui seront reconstruits par la ville d'ici 2027. Cette liste noire comprend également les escaliers Frontenac, Lépine, de la Chapelle et des Franciscains. L'accès à l'escalier des Franciscains a été fermé il y a près d'un an à la suite de pluies torrentielles qui ont affaibli ses points d'ancrage dans la falaise. C'est dans les fougères, entourant la structure en bois de 178 marches, que le frère sportif David Plouffe, Guillaume, avait entraîné la belle Rita Toulouse dans l'une des scènes marquantes de l'adaptation cinématographique du roman « Les Plouffes » par Gilles Carle en 1981. Sa reconstruction, au coût de 1,2 million de dollars, est prévue de mai à octobre 2027. Une refonte artistique? Pour le consultant en culture Ian Gaylor, la refonte des escaliers de la capitale ne doit pas se limiter à une reconstruction à l'identique. Tant qu'à mettre 1,2 million pour rénover les Franciscains, pourquoi ne pas en mettre 2,5 pour en faire quelque chose d'exceptionnel dans la durée? Se demande-t-il. Monsieur Gaylor donne l'exemple des ponts signatures dessinés par des architectes de renom. En écoutant le passionné d'urbanisme, on imagine spontanément un escalier métallique rouge vif. C'est en plein ça! Rouge pétant, avec des flamants roses et des ballons, précise-t-il. Le promoteur du projet échafaudé, avec Pierre Sasseville, du duo d'artistes contemporains Cook-Sasseville, se garde toutefois de s'immiscer dans les œuvres qui seraient réalisées à la suite d'un concours organisé par la ville. Gaylor évoque un projet générationnel qui ferait de ces escaliers des points de repère à l'image des stations de métro bigarrées de Montréal. Il faut que ce soit mémorable, Instagrammable, lance celui qui dit avoir reçu le soutien de conseillers municipaux et de députés de la région de Québec. Évidemment, personne ne veut se mouiller présentement, mais ce que j'entends, c'est qu'on veut que ça se passe. L'envergure de chaque projet serait déterminée par la hauteur et la fréquentation des escaliers, répartis en trois grades, mineur, majeur et signature. Celui du faubourg appartient manifestement à la catégorie supérieure aux yeux de Ian Gaylor. La structure, couronnée d'un belvédère en demi-lune, fait partie des quatre escaliers métalliques conçus par l'ingénieur Charles Baillarger à la fin du 19e siècle, dans la ligne des travaux d'embellissement haussmanniens faits à Paris. Baillarger évoluait à une époque où l'on célébrait la fonte associée à la modernité, explique l'historienne de l'art Marie-Ève Bonenfant, qui a consacré un ouvrage au legs de l'ingénieur québécois. Il y avait à cette époque une volonté de transcender le lien fonctionnel de l'escalier pour en faire un bel équipement que les citoyens remarquent. La monumentalité de ces escaliers permettait également d'inscrire le pouvoir municipal émergent dans le paysage de la capitale. En témoignent les arches de celui du faubourg, qui arbore le portrait du maire de l'époque, François Langelier, 1882-1890, une pratique que l'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui. Les travaux de réfection à venir doivent-ils préserver l'aspect patrimonial de ces escaliers, qui sont à Québec, ce que les gondoles sont à Venise et les felouks à l'Égypte, pour reprendre la formule imagée du regretté géographe Luc Bureau? Un escalier, c'est vivant. Et il faut que ça évolue dans le temps. Lance l'historien Jean-François Caron. Il ne faut pas être dogmatique. L'auteur des Curiosités de Québec, édition GID, donne l'exemple de l'escalier casse-cou de la côte de la montagne qui a été reconstruit à de nombreuses reprises depuis sa mise en place à la fin du 17e siècle. Ce passage étroit, qui aboutit à la rue du Petit-Champlain, a d'ailleurs été doté de l'un des escaliers de Baillarger en 1893. C'est au sommet de ces marches qu'Alfred Hitchcock apparaît brièvement dans son film « I Confess », tourné dans la capitale en 1952. Le passage du maître du suspense n'a pas empêché le démantèlement de cet escalier à la fin des années 1960 pour satisfaire les commerces environnants. Acupuncture urbaine. Marie-Ève Bonenfant verrait d'un bon œil la reconstruction artistique des escaliers de Québec qu'elle imagine dans l'esprit des passages couverts de Paris. On pourrait avoir un équivalent ici en intégrant des œuvres d'art, souligne la spécialiste de l'héritage métallique de Charles Baillarger. La médiatrice culturelle Catherine Ève Gadouri redoute, quant à elle, une approche trop invasive qui pourrait dénaturer les escaliers où elle organise des concerts surprises et des animations sonores depuis 2021. Nous voulons les révéler sans les transformer, explique l'idéatrice du projet Escale qui tiendra sa 4e édition cet été. La native du quartier Saint-Jean-Baptiste met en avant un concept d'acupuncture urbaine permettant de préserver le pittoresque de ces voies de passage et de rencontres. On vit à une époque où on veut tout instagrammer. Et c'est certain que ça marcherait, un escalier Instagram, lance Mme Gadouri. Je préfère l'approche éphémère pour sensibiliser les gens à ces escaliers qu'on a oubliés tellement ils font partie du décor. C'était Les escaliers de Québec à la croisée des chemins. Un texte de Dave Noël paru le 19 mars 2026 dans Le Devoir.